Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service.
Dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA, le programme national de lutte contre le SIDA invite les Congolais, invite toutes les personnes, en tout cas, à aller se faire dépister par rapport à cette maladie. On va découvrir avec notre invité, Dr Didier Caméré, pourquoi est-il important d'aller faire un dépistage. Hein. On appelle cela le dépistage volontaire du VIH-SIDA. Nous rappelons le numéro de contact si vous voulez poser des questions, vous avez peut-être des témoignages par rapport au dépistage, vous pouvez appeler au 081-890-63-79 ou envoyer un SMS au 081-711-50-01. Il y a également la page Facebook au Capi Service sur laquelle vous pouvez bien réagir. Docteur Didier Caméré, pourquoi est-il important de passer un dépistage volontaire du VIH-SIDA?
Oui, les avantages du dépistage du VIH-SIDA sont multiples. Mais avant toute chose, le conseil dépistage, nous devons dire que c'est une stratégie de lutte contre le VIH-SIDA qui va permettre à toute personne de savoir s'il a l'infection, s'il a le microbe du VIH dans son organisme ou pas. Et pour le savoir, vous devez passer un test à partir de prise de sang qui va vous permettre de savoir si dans votre organisme vous avez le microbe ou pas. Aujourd'hui, je vais vous parler juste de trois grands avantages. Il y en a plusieurs. Et le premier avantage, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet à la personne de savoir s'il a le microbe dans son organisme ou pas, parce que ce microbe peut se multiplier dans votre organisme sans que vous le sachiez. Il y a plusieurs personnes qui sont porteurs du microbe à VIH et n'ont aucun signe de maladie, qui est le sida, pendant plusieurs années. Et par le test VIH, vous saurez si vous avez le microbe ou pas. Le deuxième avantage, c'est lorsque vous passez le test VIH et que le test est positif. Aujourd'hui, vous savez que les gens ont peur de passer le test VIH parce qu'il y a encore ces idées erronées qui lient au sida la mort. Et nous disons que l'avantage de passer le test VIH à ce jour, c'est de vous permettre d'avoir accès à tous les moyens de prise en charge. Il y a des médicaments qu'on va vous donner, si votre test est positif, qui vont bloquer la multiplication du virus dans votre organisme et empêcher que vous arriviez au stade de sida, qui est la maladie. Ici, nous devons faire la différence entre le sida et le VIH. Et si votre test est positif et que vous êtes au stade très avancé déjà de la maladie sida, on peut toujours vous remonter grâce à ce blocage de la multiplication des virus qui permet à votre système de défense de se reconstituer. Et enfin, nous disons aussi que l'avantage, c'est permettre d'accéder aux moyens de prévention. Si le test est négatif, on va vous dire comment éviter d'avoir l'infection à VIH, comment éviter de contracter ces virus, de ne pas être dans l'ignorance. Et si vous avez votre test est toujours positif, on vous met sous ARV, toujours grâce aux moyens de prévention, vous devenez moins contaminant. On vous montre comment éviter de contaminer les autres. Ici, la dimension prévention est regarder vers les autres. Vous qui êtes séropositif, on va vous montrer comment bloquer les virus, être moins contaminant et comment éviter de contaminer les autres. Donc, vous remarquez qu'en très peu de mots, les avantages sont multiples à la date d'aujourd'hui de passer le test de VIH et de savoir si on a le microbe dans son organisme ou pas, que de rester caché quelque part en attendant ce qui va arriver comme fatalité.
Ah, docteur, si je me refaire au premier avantage, vous avez parlé de ça permet à la personne de savoir s'il a les microbes ou pas. Alors, j'aimerais savoir, ça doit se faire généralement après combien de temps ce dépistage volontaire du VIH-SIDA?
Oui, le dépistage, vous devez le faire à tout moment que vous en avez l'occasion. Vous devez le faire au moins une fois que vous en avez l'occasion. Mais si vous avez un contact à risque, vous aviez déjà passé votre test qu'il était négatif, et vous vous retrouvez dans un contact à risque, et vous pensez que vous risquez par ce contact d'avoir contracté le virus, vous devez refaire votre test. Donc vous devez le faire autant de fois que cela sera nécessaire, surtout que c'est un test qui est gratuit. Si vous faites le test aujourd'hui, et que vous avez contracté le virus il y a moins d'une semaine ou moins de deux semaines, il y a très peu de chances qu'on puisse voir la présence des anticorps anti-VIH dans votre organisme. On va vous demander de revenir 3 mois après. Vous remarquez, quand vous êtes chez un conseiller en matière de dépistage du VIH, il vous demandera un deuxième rendez-vous. C'est juste pour vérifier, est-ce qu'au premier contact, l'organisme n'était pas encore suffisamment sensibilisé pour développer ces anticorps anti-VIH que nous recherchons. Et au deuxième rendez-vous, qui vient souvent 3 mois après, on peut maintenant confirmer la présence ou l'absence du microbe dans votre organisme.
Vous avez dit à tout moment si c'est bien possible de le faire, et surtout lorsqu'on a eu un contact à risque. C'est quel genre de contact, par exemple?
Le VIH-SIDA se transmet essentiellement par 3 voies. Il y a la voie sexuelle, la voie sanguine qui recoupe beaucoup de comportements à risque, et la voie mère-enfant. Par la voie sexuelle, vous avez un rapport sexuel non protégé avec une personne dont vous ne connaissez pas l'état sérologique. Vous ne savez pas s'il est infecté ou pas. Après ce genre de contact, vous devez vérifier si vous n'avez pas eu le microbe, pas seulement le VIH et d'autres IST par cette occasion. Si vous allez utiliser des lames de rasoir, vous avez reçu des injections, mais le matériel, la source n'était pas sûre, vous devez vérifier, est-ce que je n'ai pas été contaminé. Un médecin ou un infirmier ou un prestataire de soins, en milieu de soins, il reçoit par exemple dans ses yeux des sécrétions organiques comme les liquides céphalorachidiens, comme le sang. On doit vérifier est-ce que par ce contact, il n'a pas pris le microbe dans son organisme. Une mère qui a une femme qui est enceinte, nous savons que si elle est enceinte, elle a des rapports sexuels, mais les rapports sexuels, la voie sexuelle, c'est l'une des voies par lesquelles le virus passe. Nous demandons à toute femme qui passe lors des consultations prénatales qu'on puisse vérifier est-ce que cette femme n'a pas contracté le virus lors des rapports sexuels avec son partenaire. Et là, nous prenons toutes les mesures au cas où elle est séropositive pour protéger l'enfant. Donc, par les 3 voies, la voie sexuelle, la voie sanguine, la voie mère-enfant, on peut avoir le microbe à VIH et on doit voir comment offrir les tests pour toutes les personnes qui ont ces contacts à risque.
Alors, docteur, est-ce qu'il y a des endroits indiqués pour aller faire ces dépistages volontaires du VIH-SIDA?
Aujourd'hui, nous avons 2 grandes stratégies pour offrir le conseil dépistage à notre population et un peu dans le monde entier aussi. C'est par dans la communauté. On amène des centres de dépistage volontaires dans la communauté, tenus par des acteurs communautaires, des ONG et autres, qui offrent des conseils et le test à toutes les personnes vivant dans cette communauté pour savoir s'ils sont infectés ou pas, et on les réfère vers des structures de soins au cas où elles sont séropositives. Mais à la date d'aujourd'hui, tous les grands hôpitaux, des grandes villes, tous les grands chefs-lieux, dans tous les hôpitaux, on sait faire le test VIH. Vous allez à l'hôpital général de votre zone de santé, vous demandez le test VIH, on peut vous l'offrir. C'est devenu une stratégie intégrée, comme on fait le test pour d'autres maladies, le paludisme, la tuberculose. Le test VIH est déjà intégré dans les paquets de soins que nous offrons dans les structures de soins.
Et vous avez les résultats le même jour?
Non seulement le même jour, mais en moins de 15 minutes.
En moins de 15 minutes. Et là, maintenant...
En 15 minutes, vous avez votre résultat, oui.
Et mais le personnel qui va se charger de faire ces dépistages, est-ce qu'ils sont tous formés au cas où vous avez un résultat positif? Et comment vous préparez à cela?
Oui, le personnel, ça c'est la première condition. Dans les structures des soins, le personnel doit être renforcé en capacité. Ils doivent être capables d'offrir des conseils en tenant compte de tout ce qu'il y a comme poids, psychologique lié à cette maladie, qui a une connotation négative dans notre communauté. Ils doivent offrir des conseils dans un cadre purement confidentiel, en respectant beaucoup de normes d'éthique. Et ils doivent recevoir le renforcement de capacité dans l'utilisation des tests rapides pour vérifier si dans l'organisme il y a le microbe ou pas. Donc le renforcement de capacité, c'est une condition. Dans la communauté, ceux qui font le conseil dépistage, c'est la première condition aussi. Ils doivent, le personnel qui va travailler dans le conseil dépistage doivent être formés. Et après, on doit mettre à disposition des tests pour qu'ils fassent bien leur travail.
Voilà, dépistage du VIH-SIDA, quels sont les avantages? Nous en parlons au cours de ce magazine avec Dr Didier Caméré, qui est expert en VIH-SIDA. Nous avons déjà 2 auditeurs en ligne. Il y a Sadi Ngembo qui appelle de matin dans le Bas-Congo et Madame Pacifique qui est à Kinshasa. Vous êtes également intéressé et vous voulez poser des questions par rapport à ces sujets. Appelez au 081-890-63-79.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, Acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Voilà, on va prendre le premier auditeur qui est en ligne, Sadingembo, qui appelle de Matadi dans le Bas-Congo. Sadingembo, bonjour. Bonjour Sadingembo.
Oui, bonjour.
On vous écoute, quelle est votre question sur ce sujet, sur le dépistage oui. volontaire du VIH/SIDA?
Oui, ma préoccupation, ma question, je voulais un peu savoir, si un malade qui a un autre problème chirurgical et qui doit être opéré, et la structure sanitaire, dans leur système quotidien, ils sont obligés de faire passer peut-être tout le malade qui passe à la salle d'opération au test de dépistage sur le VIH. Est-ce que, quand on a, pour faire cet examen-là, pour ce malade-là qui doit passer à la salle d'opération, il est important d'avoir le consentement de ce malade-là ou non?
Voilà, merci à Sadingembo d'avoir appelé de Matadi. Dans le Bas-Congo, le docteur Didier Kaméri va vous répondre tout à l'heure. Madame Pacifique, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, madame. Bonjour, madame Pacifique. Madame Pacifique n'est plus en ligne. J'espère que là, au niveau de la réalisation, on va essayer de rejoindre à nouveau à Madame Pacifique. Alors là, docteur Didier Kaméré voulait bien répondre à la question de Sadingembo qui a appelé de Matadi dans le Bas-Congo. Il y a une personne qui doit passer une intervention chirurgicale et puis cette opération peut-être par rapport aux examens qu'on doit faire exige qu'on fasse également le test du sang. Est-ce qu'on peut se permettre sans l'autorisation de cette personne de faire un test de VIH/SIDA?
Oui, merci beaucoup. Ça, c'est une question qui vient souvent dans le monde de soins. Le consentement aujourd'hui est obligatoire. Mais on peut avoir des situations où on ne sait pas avoir le consentement de la personne concernée. Par exemple, dans la situation d'une personne qui doit bénéficier d'une chirurgie et que la personne n'est pas apte, n'a pas toutes les fonctions pour donner son consentement, nous recourons à la famille. Où on peut recourir à l'équipe de soins. Donc il y a des situations où on ne sait pas avoir le consentement directement de la personne concernée. Mais en tout état de cause, on doit avoir le consentement de la personne. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à la dimension du consentement présumé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que vous disiez oui expressément ou que vous puissiez l'écrire « Je suis d'accord qu'on fasse le test de VIH ». Le consentement présumé nous amène à informer la personne qu'on va faire l'examen, tel examen, et sous la liste des analyses qu'on va faire, il y a aussi l'analyse par rapport à la recherche des anticorps anti-VIH. On doit, en toute situation, donner à la personne l'information. Parce que si le test est positif, on sera bloqué pour amener la personne à une prise en charge correcte avec son adhésion. On sera amené à recommencer ce processus. C'est pour ça que nous demandons à tous les prestataires de soins, lorsque les conditions les permettent, informer la personne qu'on va faire cet examen-là. Nous tenons aussi compte de la dimension où on doit protéger le personnel soignant, surtout les chirurgiens qui entrent en contact avec les sécrétions organiques qui sont souvent riches en virus. Et dans cette situation, il y a des précautions à prendre pour qu'ils ne soient pas infectés, comme le port des lunettes et beaucoup d'autres exigences dont ils ont la connaissance. Et là, c'est pour leur protection. Mais cette protection ne doit pas amener à enfreindre la règle de l'information sur d'obtenir le consentement de la personne.
Voilà, on va retrouver Madame Pacifique qui appelle de Kinshasa. Bonjour Madame Pacifique.
Bonjour Fela.
On vous écoute Madame. Quelle est votre question par rapport à ces sujets sur le dépistage volontaire du VIH/SIDA?
Bon, j'ai deux petites préoccupations à Monsieur Marcel.
Oui.
La première, c'est à propos de matériel que les enfants qui chantent avec les amis travaillent avec. Je ne sais pas avec ce matériel. Est-ce qu'il y a moyen de contacter le VIH/SIDA? Et si c'est possible, que le docteur peut donner à ces gens-là, ces jeunes gens-là, pour bien travailler à leur boulot? Et, la deuxième question, j'avais une question. En Afrique du Sud, il y a mon frère qui était docteur. Il est tombé amoureux. Alors, la fille, son papa était aussi docteur. Le papa a voulu cacher sa fille derrière alors que sa fille était atteinte. Je ne sais pas, soit le docteur comme le monsieur qui était invité, je ne sais pas quel est le message que lui peut apporter à de tels médecins. Oui.
Et madame Pacifique, votre première question, c'est par rapport aux enfants qui circulent avec le matériel de vernis, c'est ça?
Le
matériel pour
oui.
Les ongles. Ah d'accord, merci, j'ai bien compris cette fois-ci. Merci madame Pacifique d'avoir appelé des Kinshasa. On va se rendre à Kananga, nous avons Augustin qui est en ligne. Bonjour Augustin.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à notre invité.
On vous écoute Augustin.
Ah oui, nous avons suivi avec intérêt cette émission et nous voulons un peu demander à notre invité. Il nous a parlé des trois voies où on peut directement atteindre le sida. Mais je prends seulement une voie. Par exemple, la voie génitale, par la voie sexuelle. Comment une personne peut attraper le sida par la voie sexuelle? Par combien de durées? C'est-à-dire que les microbes là, à combien de durées si une personne est atteinte?
Voilà, merci Augustin, vous avez appelé depuis Kananga dans Lucas Occidental. Docteur Didier Caméré, je reviens à vous pour... Vous avez suivi madame Pacifique qui a parlé de ces enfants qui ont du matériel pour essayer... on les appelle ici à Kinshasa Banaverni, hein, donc qui ont du matériel pour la manicure, la pédicure des femmes. On aimerait savoir si ces matériels peuvent constituer un danger par rapport à ces femmes. Et puis cette deuxième question, il a parlé de son frère qui vit en Afrique du Sud, qui était tombé amoureux d'une fille qui était atteinte, mais le père cachait que sa fille était atteinte. Et dans ces cas, comment doit-on se comporter lorsque vous savez qu'une personne est atteinte, quand bien même que vous êtes le parent de la personne, est-ce que vous pouvez cacher cela à son amant? C'était ça la préoccupation de madame Pacifique appelée de Kinshasa.
Merci beaucoup. Concernant les banaverni ou banaïna, comme on dit souvent, qui vont de porte en porte avec leur matériel pour offrir la pédicure, la manicure à nos sœurs, nous disons, si cette pratique, il utilise le même matériel à deux personnes différentes et que l'une des personnes est infectée, le risque de contamination est bel et bien là. Parce que lorsqu'il est en train de faire sa pédicure ou sa manicure en utilisant sa lime, il y a des micro-lésions qui se font et sachez que par cette pratique, le risque de contamination est bel et bien réel. Et le conseil que je vais donner, ce n'est pas à ces enfants ou à nos amis jeunes qui font cette pratique de pédicure, de porte en porte, c'est plutôt à nos sœurs. Ce que je vais leur demander, c'est ce qu'on demande également aux garçons, aux hommes qui vont dans les salons de coiffure, d'avoir leur propre matériel pour comme lame de rasoir et autres, et que ça soit individuel et à usage unique. Nous demandons également à nos sœurs d'avoir leur propre matériel. Lorsque les jeunes hommes arrivent chez vous, vous lui donnez votre matériel à vous qu'il va utiliser et non utiliser son matériel à lui. Et si vous passez outre ces conseils, sachez que le risque de contamination est là au cas où ceux qui vous ont précédé sont infectés. Et par rapport à son frère qui est en Afrique du Sud, qui est médecin et qui s'est marié avec une dame qui est séropositive, dont le père a caché l'état sérologique, je ne vois pas le problème plutôt au niveau du père qui aurait caché l'information sur la santé de sa fille. Moi, je suis seulement au niveau du couple, parce que la responsabilité du père n'est pas très engagée dans cette situation. C'est d'abord le demande du couple. Aujourd'hui, la loi congolaise sur la protection des personnes vivant avec le VIH est claire. Lorsque vous êtes infecté par le VIH, il y a des devoirs, il y a des droits. Il y a plein de droits que nous connaissons, mais comme devoir, vous devez informer votre partenaire sexuel sur votre état sérologique. C'est la loi. Et c'est une loi qui est mondiale pour le moment. On l'a répliquée dans plusieurs pays du monde, dont l'Afrique du Sud. Cette fille a l'obligation, si elle est informée, elle sait qu'elle est infectée, elle doit informer son partenaire sexuel sur son état sérologique. Moi, je suis infecté. Mais elle a aussi droit au mariage. Non seulement qu'elle a le devoir d'informer son état sérologique, elle a droit au mariage. Maintenant, le droit au mariage, elle ne va pas s'épouser elle-même. C'est la personne qui, sachant qu'elle est infectée, accepte en âme et conscience de l'épouser. Et son frère, s'il savait que cette fille est infectée, il a accepté malgré cette condition de se marier avec cette fille, là se pose le problème de risque de contamination de cet homme. Et le risque de contamination est réel, et à cette dimension, les prestataires de soins, les conseillers vous disent comment vivre votre vie de couple sans que l'autre partenaire soit infecté. Il y aura après la dimension désir de grossesse qui sera aussi gérée toujours par l'équipe de soins en protégeant la personne qui n'est pas infectée d'être contaminée. Donc, je pense que dans cette situation, il faut bien dialoguer avec votre frère. S'il était informé et qu'il a accepté la situation comme telle, je pense que le problème du père ne se pose pas tellement. Mais sachant que les personnes vivant avec le VIH ont droit au mariage et ils ont des devoirs d'informer leur partenaire sur leur état de santé. Notre ami Augustin qui a appelé des Kananga, sur la contamination par la voie sexuelle, oui, le risque de contamination est réel. Et les sécrétions vaginales sont riches en microbes VIH. Les spermes est riche en microbes VIH pour les personnes qui sont infectées par le VIH. Donc pendant le rapport sexuel, si le rapport sexuel se passe entre un homme infecté et une femme qui n'est pas infectée, le risque de contamination est réel parce que le microbe peut passer par la muqueuse vaginale, il peut passer par les micro-ulcérations qui se font pendant les rapports sexuels. Et si la fille a aussi d'autres infections dans sa voie vaginale, les autres infections aggravent l'état de l'inflammation au niveau de la muqueuse vaginale, ça fragilise cette muqueuse et le passage du virus est facilité. À l'inverse, si la fille est infectée et que l'homme n'est pas infecté, pendant les rapports sexuels, le virus peut passer par le moyen urétral, passe aussi par, si l'homme n'a pas été circoncis, le prépuce, à l'intérieur du prépuce, c'est une muqueuse. Par cette muqueuse qui est fragile, le virus peut passer par là, tout comme il peut passer par les micro-ulcérations qui se font pendant les rapports sexuels. Mais sachez que le risque de contamination de la femme avec un homme contaminé est plus élevé que le risque de contamination d'un homme avec une femme qui est infectée. Bon, la voie sexuelle aujourd'hui, vous savez, il y a plusieurs fantaisies sexuelles. Oui. On n'utilise pas seulement la voie vaginale, il y a la voie anale, il y a plusieurs voies. Et nous signalons seulement que la voie anale est plus à risque que la voie vaginale. Donc, la contamination par la voie sexuelle, un seul rapport peut suffire pour que vous soyez contaminé.
Voici, vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la piste. C'est le magazine Okapi Service. On est en train de parler du dépistage volontaire du VIH-SIDA avec Dr Didier Caméré, expert en VIH-SIDA. Vous avez des questions, vous voulez intervenir, appelez au 081-890-63-79.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Jacques nous appelle de Kalemie dans le Katanga. Bonjour Jacques.
Merci le présentateur. Bonjour à l'invité. C'est Jacques Bingaya depuis Kalemie.
On vous écoute Jacques. Quelle est votre question?
J'ai trois petites questions à poser à l'invité. C'est une opportunité pour moi. Ici à Kalemie, il y a beaucoup de salons de coiffure hein, qui naissent comme des champignons dans tous les marchés, dans tous les coins. Et sans les coiffures, les gens, les coiffeurs ne sont pas du tout recyclés en matière sanitaire. Il y a des gens qui entrent d'un moment à l'autre, dont les gens se succèdent hein, d'un moment à l'autre au salon de coiffure. Et les machines tondeuses qu'ils utilisent ne sont pas du tout infectées. Et si du moins il y a une personne infectée, hein, une personne qui est infectée, qui entre dans une personne atteinte de VIH/SIDA, qui entre dans un salon de coiffure, on les coiffe, on les blesse. Et je vais demander à l'invité, après combien d'heures que ces virus peuvent quand même périr et que laissent la tondeuse quand même sainte. Et ma deuxième préoccupation, allô?
Oui, allez-y, vous êtes en ligne Jacques, on vous écoute 5 sur 5, allez-y.
Oui, la deuxième préoccupation, c'est par rapport à une femme atteinte. Et une fois quand on passe une relation sexuelle avec une femme atteinte, et lui nous dit que le VIH-SIDA est présent après les séminaires sanitaires qu'on a déjà fait ici à Kalemie. Le VIH-SIDA se trouve, les microbes là se trouvent que dans les sangs. Alors, à part dans les sangs, il y a d'autres liquides vaginales qui peuvent quand même contenir le VIH-SIDA par les sangs. C'est ma deuxième question. Et ma troisième, la moustique, hein, monsieur le journaliste, à travers l'invité, je suis très content. La moustique qui pique les gens d'un moment. Ici à Calémie, il y a beaucoup, hein, beaucoup d'Ostagnans. Les gens sont quand même, les gens sont piqués d'un moment à l'autre. Alors, comment la moustique, elle, ne parvient pas à transmettre le VIH-SIDA et pourtant qu'elle est là pour transmettre, pour piquer la personne qui est atteinte et à une personne saine. Comment, par quel mécanisme où la moustique ne peut pas quand même transmettre le VIH-SIDA? C'est ça mes trois questions. Merci beaucoup.
Jacques. Merci Jacques. D'avoir appelé de Calémie dans le Katanga, Côte 6 et à Kinshasa. Bonjour Côte 6.
Bonjour monsieur.
On vous écoute.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je voudrais seulement savoir, parce que j'ai entendu notre invité dire que presque dans tous les hôpitaux, dans les grands hôpitaux, il y a le dépistage volontaire dans tous les hôpitaux. Moi, j'étais patient au niveau de clinique Galliema. Je ne sais pas, est-ce que quand j'étais malade, j'étais hospitalisé, est-ce que dans les examens qu'on avait fait là, est-ce qu'il y avait, on avait fait l'examen, l'examen de sida, et si on l'avait fait, comment saurais-je que réellement on a fait ça? Je veux bien savoir ça.
Merci. Côte 6, vous appelez depuis Kinshasa. Docteur Didier Kaméré, on revient à vous. On commence avec Jacques qui a appelé de Calémie, qui a posé la première question. Certainement, vous avez évoqué un peu cela lorsque vous avez parlé des ces enfants qui vont de porte à porte pour ce qui est de la manucure et de la pédicure des femmes qui utilisent peut-être le même matériel. Et qu'en est-il des hommes qui vont dans les salons de coiffure et des fois on utilise les mêmes tondeuses? Il avait souhaité de savoir lorsque quelqu'un qui est infecté et que lorsqu'on est en train de le coiffer avec une tondeuse, peut-être que la personne a été blessée et puis on prend la même tondeuse pour coiffer un autre client. Est-ce qu'il y a danger que ce client soit infecté au cas où la personne qui a précédé était atteinte? Et puis ça peut se faire après combien de temps, après combien d'heures? Il a également posé la question de savoir pour ce qui est de liquide, hein, tout ce qu'il y a comme humeur dans les corps, en dehors du sang, où encore on peut trouver le virus du sida. Vous avez parlé du sperme et des circulations vaginales, peut-être que vous pourrez également parler d'autres liquides du corps humain. Et puis, sa question sur le moustique, peut-il aussi piquer l'homme et lui transmettre le virus sida après avoir piqué une personne atteinte? Docteur Didier Kaméré.
Merci beaucoup pour notre ami Jacques qui appelle de Calémie. Nous devons dire ceci. Lorsque nous arrivons dans un salon de coiffure, concernant le VIH-SIDA, nous devons savoir que nous sommes dans un milieu à risque de contamination du VIH-SIDA. Ça, c'est le premier principe. Et si nous retenons ces principes, nous devons prendre toutes les précautions, nous qui sommes clients du salon de coiffure et le personne qui travaille dans les salons de coiffure. Il n'y a pas que le client qui peut être infecté, il y a aussi le coiffeur lui-même qui peut s'infecter dans le salon de coiffure. L'éducation sanitaire est très importante et je pense que les acteurs des zones de santé et autres doivent vraiment faire leur travail et bien éduquer notre population à ce sujet. Lorsqu'une tondeuse a été utilisé chez une personne qui est contaminée et qu'on vient l'utiliser juste après à une autre personne qui n'est pas contaminée, il y a des micro-lésions avec la tondeuse et on peut par cette voie être contaminé par le VIH. Le risque de contamination est réel, à des niveaux différents, mais le risque est là. L'idéal, c'est que chacun puisse avoir sa tondeuse. Nous savons ce qui coûte une tondeuse dans notre pays. Je sais que dans certains milieux, il sera difficile par rapport à ce que nous gagnons pour s'acheter chacun sa tondeuse. Mais alors, prenons toutes les précautions que cette tondeuse soit bien séchée, désinfectée, avant qu'on l'utilise à une autre personne. Ça, c'est pour le coiffeur. Mais la personne, le client doit se rassurer. Le matériel qu'on va utiliser chez lui, la lame de rasoir doit être une lame de rasoir individuelle, pas une lame de rasoir collective. La tondeuse doit être vraiment correctement séchée.
Docteur Didier, oui. par rapport à la tondeuse, lorsqu'on n'a pas de moyen de s'acheter sa propre tondeuse, on peut demander à qu'on vous coiffe avec une lame rasoir, tout simplement.
Tout simplement, oui, parce que nous savons que nos amis coiffeurs maîtrisent très bien la lame de rasoir et on peut bien se passer de la tondeuse. On peut vraiment bien s'en passer. C'est vrai qu'il est dit sur le plan médical que le virus est fragile, c'est tout à fait vrai, par rapport à la chaleur, par rapport aux désinfectants, par rapport aux conditions de sécheresse fortes, mais vous savez, le risque zéro n'est pas de ce monde, donc prenons toutes les précautions. Ne disons pas que c'est un virus fragile, on a bien désinfecté ou on a soumis ça aux conditions de chaleur extrême. Prenons toutes les précautions, allons vers l'idéal ou utilisons d'autres mécanismes pour nous faire coiffer. Notre frère qui a demandé d'autres liquides qui pourraient contenir le virus, à part le sang, il y a les, comme il a dit, les sécrétions vaginales, il y a le sperme, il y a les liquides qui sont avant l'éjaculation, avant que le sperme ne sorte, il y a le lait maternel, comme il a parlé de la femme enceinte, le lait maternel contient le virus. Si cette femme est infectée, si elle allait son enfant, elle peut le contaminer. Il y a d'autres liquides qui sont plus connus par les prestataires de soins, qu'on appelle les liquides céphalo-rachidiens, les liquides lymphatiques. Beaucoup de liquides contiennent le virus, mais on doit préciser, il y a certains liquides de l'organisme qui ne sont pas contaminants, parce que ces liquides entrent en jeu dans nos gestes de vie courante. Je parle de la salive. La salive n'a pas une quantité suffisante pour être contaminante. Je parle de la sueur, je parle des urines. Et si vous utilisez les mêmes toilettes avec une personne infectée, vous ne courez pas le risque d'être contaminé par le VIH, mais vous pouvez avoir d'autres types d'infections. Si vous échangez la même chemise avec une personne qui a l'infection à VIH, sa transpiration, vous ne courez pas le risque d'avoir le VIH, mais vous courez le risque d'avoir des mycoses et d'autres infections. Donc les gestes de la vie courante ne transmettent pas le VIH, mais les liquides qui sont engagés plus dans la contamination du VIH, c'est le sang, les sécrétions vaginales, le sperme, le lait maternel et d'autres liquides. La question sur le moustique,
oui.
Le moustique transmet le paludisme, oui, parce que le microbe du paludisme, qui est le plasmodium, dès que un moustique a piqué une personne qui est infectée, il aspire le sang, il prend aussi les germes par la même occasion. Le sang qu'il a aspiré va dans son tube digestif, dans son estomac. À partir de l'estomac du moustique, les microbes du paludisme, le plasmodium, remontent tout seul de manière active jusqu'aux glandes salivaires du moustique. Et il se loge à ce niveau-là. Lorsqu'un moustique veut piquer une personne, il commence par déposer un peu de salive qui est un peu anesthésiante pour que vous ne sentiez pas la piqûre. Et en déposant sa salive, il donne par la même occasion aussi les microbes du plasmodium et vous avez une autre personne qui sera infectée par le plasmodium. Mais pour le VIH, dès qu'il aspire le sang, si ce sang contient le VIH, ce sang arrive dans le tube digestif, le microbe du VIH avec le sang suivent le circuit du tube digestif jusqu'à la défécation. Donc le microbe ne va pas remonter jusqu'aux glandes salivaires pour être transmis lors de la piqûre.
Donc il n'y a pas à s'inquiéter, un moustique qui pique une personne atteinte du VIH/SIDA, donc on n'a pas à s'inquiéter que c'est la même, lorsqu'il pique une autre personne, que cette personne soit infectée du VIH/SIDA. Donc ça n'a rien à voir, on n'a pas à s'inquiéter par rapport à cela.
Pas de soucis, vous aurez le plasmodium et vous allez développer votre malaria, mais vous n'aurez pas le VIH/SIDA.
Voilà.
Et il y a l'effet essuyage lors de la piqûre.
Docteur Didier, avant de répondre à la question des codes six, on prend d'abord deux auditeurs qui sont en ligne. Il y a Arsène qui nous appelle de Dar es Salaam en Tanzanie et il y a Patrick Ngoy qui est en Bougimaï au Cas Oriental. On commence avec Patrick Ngoy. Bonjour Patrick. On vous écoute Patrick, allez-y.
D'accord, ma question était de savoir à combien de pourcentage on peut retrouver le VIH dans les liquides physiologiques comme les urines, salive et consorts. Donc c'était un peu ça.
Merci Patrick d'avoir appelé de Mujima dans le Cas Oriental et puis Arsène qui est à Dar es Salaam en Tanzanie. Bonjour Arsène.
Oui, bonjour. Et je suis très fier. J'ai eu de sentir les préambules des sujets d'aujourd'hui. Bon, en fait, je pose à notre invité des questions de savoir. Bon, notre pays a encore un niveau très bas pour la compréhension des VIH/SIDA par rapport au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et même ici à Tanzanie, là où je suis. Bon, il y a ceux-là vraiment qui le font pour leur propre volonté. Mais ma question est liée surtout au niveau des détermines, parce que les détermines sont des tests de VIH/SIDA. Nous les voyons dans des officines, on les voit, et tous ces détermines-là, à un moment donné, j'étais à Bukavu, bon, j'ai compris, on était en train de les ravir dans les officines. Alors ma question est de savoir, est-ce que vraiment, bon, l'invité ne voit pas que lorsque quelqu'un achète les détermine dans une pharmacie et lui-même se dépite, et peut-être il n'a pas la compétence ou il n'a pas le niveau de dose, soit il peut se suicider ou soit il peut se tromper, ça c'est la première question. Bon, la deuxième question, nos structures sanitaires dans notre pays, vraiment, bon, on voit toutes ces personnes-là qui font ces dépistages volontaires, bon, ils ne gardent pas les secrets. Vous voyez, bon, peut-être qu'ils sont dans des quartiers, telle personne, il est infecté, telle personne, il a de tels problèmes, et ça risquerait vraiment de ne pas donner de quelqu'un pour aller se dépister volontairement. Parce que le sujet, bon, aujourd'hui, c'est l'avantage de se dépister. Bon, autre chose que moi je demande à l'inviter pour la troisième fois. Bon, pourquoi dans notre pays on ne peut pas faire les dépistages forcés maintenant. Donc le ménage sur ménage, on prend les gens les matins, soit le soir, qu'il pleut ou qu'il neige, vous allez vous dépister pour essayer de d'équilibrer. C'était ça ma question.
Merci. Arsène d'avoir pris la réclame en Tanzanie. Docteur Didier Caméré, on revient à vous. On commence avec la question de Cotis qui a parlé, vous l'avez dit, il a été hospitalisé à la clinique Galliman. Il aurait aimé savoir parmi tous les tests des examens qu'on avait fait à lorsqu'il était hospitalisé, c'était possible qu'on fasse aussi des dépistages du VIH-SIDA sans que lui-même ne soit informé.
Pour notre ami Pacifique, on doit lui dire qu'il n'est pas possible qu'on ait fait le test VIH sans qu'il ne soit informé. Parce que l'équipe soignante de la clinique Galliman est bien formée en cette matière et ils savent qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire le test sans le consentement de la personne ou du moins sans l'informer. Et s'ils l'ont fait sans l'informer, ils vont à l'encontre de la loi qui est en vigueur en ce moment dans cette matière. Mais lui, Pacifique, il doit plutôt avoir le souci de rentrer à la clinique Galliman juste pour sa connaissance personnelle, pour savoir est-ce que je suis infecté ou pas. Et à la clinique Galliman, il passera le test sans payer un frais. C'est un test qui est gratuit. Mais l'équipe soignante, je ne pense pas qu'ils aient fait ce test sans son consentement ou sans l'informer. Patrick demande quel est le pourcentage du virus dans les sang, plutôt dans les urines, la salive et la sueur. Il a cité trois liquides qui contiennent le virus, on dit à l'état des traces, c'est-à-dire la charge n'est pas suffisante pour être contaminante. Donc le virus est à une quantité infime. On a des traces du virus dans la salive, dans la sueur, mais ce n'est pas une quantité qui est suffisante pour être contaminante. Notre ami de Dar es Salaam pose la question sur le test, là, parle de détermine. Oui, c'est un test qu'on utilise pour savoir si la personne est infectée ou pas. Aujourd'hui, la stratégie recommande qu'on puisse passer trois tests, dont celui qu'il a cité là, le détermine. Vous entendez souvent parler de détermine.
Oui.
Et c'est un test très sensible. Il est tellement sensible qu'il peut donner des faux positifs. Ces tests ne doivent pas être utilisés.
On peut le faire soi-même?
On ne doit pas le faire soi-même.
Ah,
ce n'est
voilà,
pas conseillé, ce n'est pas recommandé de le faire soi-même parce que s'il vous dit que vous êtes positif, alors que sa sensibilité l'expose à donner des faux positifs, vous risquez de développer une maladie psychosomatique vous considérant comme séropositif alors que vous ne l'êtes pas. Dans une équipe soignante, le test VIH est précédé par des conseils. C'est ce qu'on appelle conseil et dépistage. On ne commence pas par le test et puis on donne les conseils après. Non. On commence par les conseils. On vous dit pourquoi on va faire le test, quel est le bien fondé, qu'est-ce qu'on va faire si le test est positif ou s'il est négatif. Et dans la stratégie de dépistage, on ne va pas utiliser ce test-là seul. Non, on utilise trois tests. Il est couplé à d'autres tests spécifiques pour éviter des cas de faux positifs comme on en a connu vers les années 80. Et je dois aussi préciser par rapport à ce détermin dont a parlé notre ami de Dar es Salaam, il n'y a pas que le détermin à VIH. Il faut bien lire. Il y a aussi le détermin à syphilis. Le détermin n'est qu'un nom, c'est un test qui est utilisé pour le VIH, mais il y a aussi le détermin à syphilis et d'autres analyses. Donc, dans les pharmacies, vous pouvez penser, vous êtes tombé sur le détermin à VIH, vous faites un autre test qui va vous dire que vous êtes négatif ou positif, qui n'a rien à voir avec le VIH. Je suis d'accord avec lui que ce test doit être utilisé dans un milieu contrôlé par des prestataires qui maîtrisent les conseils et dépistage du VIH et qui le donnent en respectant ce qu'il a dit, la confidentialité, en respectant le consentement de la personne, parce que si ces principes ne sont pas observés, lisez la loi. La loi est claire. Vous pouvez être poursuivi en cas de rupture de confidentialité. Et je pense qu'avec tout ce que nous avons comme 10, discrimination, stigmatisation dans nos sociétés africaines. On ne doit pas laisser ce test circuler dans des conditions où les personnes peuvent le manipuler en désordre et exposer les autres à une stigmatisation.
Et sa dernière question, pourquoi il n'y a pas de dépistage forcé?
Le test doit être obligatoire, oui. Dans certains pays, à une certaine époque, le test était obligatoire. Nous savons que dans certaines ambassades, on passait le test VIH aux demandeurs de visa. Je sais que certaines ambassades, quelque part, les font encore de manière anonyme. Mais ce n'est pas recommandé, c'est interdit strictement. Le test ne doit pas être obligatoire, il doit être volontaire. Il appartient à l'équipe soignante, il appartient au conseiller de convaincre la population, comme nous le faisons aujourd'hui, à la radio Capi, sous les bien fondés de savoir qu'on est infecté ou pas. Le principe reste le consentement, le principe reste le volontariat, pas l'obligation. On a demandé à un moment donné qu'on le fasse de manière obligatoire à l'accès à l'université, à l'accès à l'armée, mais nous pensons que après vérification, ça allait être un blocage, un mécanisme de stigmatisation inutile dans la communauté. On a tellement de problèmes de discrimination sur le plan social. Cette façon de faire allait exposer ces personnes inutilement à la discrimination. Je pense qu'en milieu religieux, les pasteurs, lorsque les gens demandent, ont le désir d'aller en mariage, on leur demande d'aller faire le test. Mais ce n'est pas de manière obligatoire, c'est toujours de manière volontaire, en leur montrant le bien fondé.
Merci Didier. Docteur Didier Caméry, nous rappelons que vous êtes expert en VIH-SIDA et avec vous, on parlait du dépistage volontaire du VIH-SIDA. Quels sont les avantages? Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir éclairé les nombreux auditeurs qui ont appelé, même ceux qui ont réagi par Facebook ou sur notre page ou par SMS. Merci, on vous retrouve prochainement.
C'est moi qui vous remercie.